France Culture.
Précisément 18h sur Culture, le journal Marie-Aimée Copleutre. Bonsoir Marie-Aimée.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous et à toutes. C'est la fin du Ramadan ce dimanche, alors que le monde musulman est en fête. Gaza, toujours sous les bombes. Benjamin Netanyahou, lui, fait une proposition aux dirigeants du Hamas. Leur exil, en échange de quoi ils doivent déposer les armes. Les États-Unis aux côtés de Taïwan et du Japon face à la Chine, c'est l'annonce qui a été faite par le secrétaire d'État américain à la Défense ce dimanche. La fin de la trêve hivernale en France, c'est demain soir, alors que l'année dernière, 34 000 personnes ont été expulsées. Il pourrait y avoir encore plus à la rue, alerte Jean-Baptiste Hérault de l'association Droit au Logement. Vous l'entendrez. En plein jour de fête dans le monde musulman pour l'Aïd, la fin du Ramadan, Israël continue de lâcher ses bombes sur Gaza. 17 morts à Khan Younes aujourd'hui. Une majorité de femmes et d'enfants, selon l'hôpital Nasser. Quant à Benjamin Netanyahou, il lance un appel au Hamas et demande aux combattants de déposer les armes en échange de quoi il leur propose l'exil hors de la bande de Gaza. Proposition qui ravive l'idée de Donald Trump qui consistait à déplacer de force les Palestiniens. On écoute le Premier ministre israélien.
Nous sommes prêts à négocier. Le Hamas déposera ses armes. Ses dirigeants pourront partir à l'extérieur. Nous prendrons en charge la sécurité générale à Gaza et permettrons la réalisation du plan Trump, le plan d'émigration volontaire. C'est le projet. Nous sommes prêts à en discuter à tout moment.
Bonsoir Michel Paul, en direct de Jérusalem, RFI pour France Culture.
Bonsoir Marie-Aimée.
Promettre l'exil aux dirigeants du Hamas s'ils déposent les armes, à qui s'adresse Benjamin Netanyahou ici ?
Oui, Benjamin Netanyahou n'a pas donné plus de précisions. Il s'est contenté de dire que la pression militaire sur le Hamas commençait à porter ses fruits. Il n'a pas nommé non plus les dirigeants qu'il voudrait voir partir. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui dirige le Hamas à l'heure actuelle. Le nom de Mohamed Sinwar, bien sûr, vient sur les lèvres depuis la mort de son frère, Yahya Sinwar. Le Hamas a indiqué que le dépôt des armes était une ligne rouge, mais la situation peut rappeler le siège de Beyrouth par l'armée israélienne en 1982, qui avait entraîné le départ de Yasser Arafat et des combattants de l'OLP de Beyrouth vers la Tunisie. Par ailleurs, Israël a nommé aujourd'hui un chef de la nouvelle administration chargé de favoriser l'émigration qualifiée de volontaire des Gazaouis. C'est le plan prôné par Donald Trump. Et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a estimé que jusqu'à 40% des Gazaouis seraient prêts à partir.
Le Hamas comme Israël ont tous deux reçu une nouvelle proposition de trêve de la part des médiateurs. Où en est la perspective de nouvelles trêves, Michel ?
Eh bien, le Hamas accepte de libérer 5 otages, mais Israël en réclame le double et a transmis une contre-proposition qui, souligne le bureau de Netanyahou, a été concoctée en pleine coordination avec les Américains. Alors on parle d'une trêve de plusieurs semaines pour l'Eid el-Fitr qui vient de débuter aujourd'hui et pour la Pâque juive qui commence dans une dizaine de jours. Rien de très concret à ce stade, mais un responsable israélien reconnaît qu'il y a une avancée, même si le fossé entre les positions reste profond.
Merci Michel Paul en direct de Jérusalem. En Birmanie, de nouvelles secousses ont frappé aujourd'hui Mandalay, la ville au centre du pays où les dégâts du séisme sont les plus importants. Le bilan provisoire fait état de 1700 morts, plus de 3500 blessés. Les secours s'activent sur place. L'Inde, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, la Chine et la Russie ont envoyé des secours, dont des militaires. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons en urgence. Elle demande 115 millions de dollars pour aider les Birmans. Les mobilisations doivent continuer en Turquie. C'est ce que demande le maire d'Istanbul, Ikrem İmamoğlu, depuis sa prison. Appel à poursuivre les rassemblements au lendemain d'une manifestation gigantesque qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans la capitale turque. Quant au journaliste suédois arrêté et détenu depuis mercredi, il est accusé de terrorisme par le gouvernement turc qui lui impute une participation à une manifestation du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, à Stockholm en 2023. Le PKK est en considéré comme organisation terroriste par la Turquie. L'administration autonome kurde en Syrie annonce dans un communiqué ce dimanche contester la légitimité du nouveau gouvernement qui a pris le contrôle du pays le 8 décembre en faisant tomber le dictateur syrien Bachar el-Assad. Les États-Unis l'ont assuré ce dimanche. Ils continuent à se tenir aux côtés de Taïwan et du Japon face à la menace chinoise. C'est le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, qui l'annonce en déplacement à Tokyo, au Japon. En contrepartie, Karine Nishimura, le Japon devra apporter aux États-Unis quelques garanties.
Devant les médias et son homologue japonais Gen Nakatani, le secrétaire d'État à la défense américain Pete Hegseth l'a assuré, l'alliance nippo-américaine n'a jamais été aussi forte. Elle est la clé de voûte de la paix et de la sécurité dans la région et les États-Unis sont déterminés à y maintenir une dissuasion crédible et robuste, y compris à travers le détroit de Taïwan. Ce, en raison des risques d'attaque de l'île par la Chine qualifiée d'agressive. Toutefois, ce ne seront pas les États-Unis seuls, mais avec le Japon qui devra faire plus, être en première ligne aux côtés de Washington face à la Chine. Le président Trump avait publiquement critiqué récemment les accords de défense actuels qui obligent les États-Unis à protéger le Japon, mais pas l'inverse. Les États-Unis estiment donc devoir empêcher la Chine d'envahir Taïwan et le Japon doit participer activement à cette dissuasion. Reste à savoir comment seront accueillis par l'opinion publique japonaise les propos du ministre américain qui dit clairement préparer la guerre pour avoir la paix. Son homologue japonais a pris la peine de souligner qu'en cas de conflit à Taïwan, le Japon agirait dans le respect de sa constitution pacifiste. Mais cette dernière s'accommode mal en l'état de ses attentes américaines.
Les Finlandais, toujours les plus heureux du monde pour la 8e année consécutive, ils sont les plus satisfaits de la vie. Ils se trouvent devant les pays nordiques, donc la Finlande. À Stockholm, la correspondance d'Ottila Ferret.
Un Finlandais heureux, on le trouve en général dans la nature ou dans un des 3,5 millions de saunas que compte le pays. 90% des habitants s'y rendent au moins une fois par semaine, un lieu comme un sanctuaire où le corps et l'esprit de Carolina et Mia lâchent prise.
On transpire tous les soucis en quelque sorte. Dans le sauna, on est tous égaux, il fait 110 degrés.
Allez, direction le lac. L'eau est autour de 0 degré. Rien d'autre ne peut me procurer un tel sentiment.
Cette pratique nordique illustre parfaitement le sisu, le concept le plus finlandais qui soit, selon Elisabeth Lati, chercheuse en psychologie.
Le sisu, c'est la force intérieure et le courage. Il est souvent invoqué dans l'adversité, quand on est l'outsider, comme la Finlande l'a été dans le passé. Quelque chose se passe à l'intérieur de nous quand on doit se montrer à la hauteur, et les défis ouvrent la voie à la créativité.
C'est ce fameux sisu qu'Alexis, 29 ans, est prêt à invoquer si les Russes voisins venaient à envahir de nouveau, comme ça a été le cas en 1939 durant la guerre d'hiver. Il est président d'un club de réservistes qui s'entraîne au tir au moins 3 fois par semaine.
On veut être capable de tirer mieux que nos voisins. Nos membres savent tirer sur une plaque de 20 cm à 150 mètres. Donc oui, je dors sur mes deux oreilles. J'ai confiance en l'État, en l'armée, en mes gars. Si l'heure est venue de combattre, je suis prêt.
Il en faut visiblement plus que Vladimir Poutine pour saper le moral des Finlandais.
La correspondance d'Ottila... Pardon. Oui, en France, un sommet pour l'océan s'ouvre tout à l'heure à Paris. ONG scientifiques et diplomates se réunissent sur 2 jours. Une rencontre organisée 3 mois avant la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, qui aura lieu à Nice en juin. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter en 2027 pour l'élection présidentielle? Réponse demain au tribunal de Paris. Elle va être jugée dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires, des eurodéputés. Elle est poursuivie pour détournement de fonds publics et complicité et en cours 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. La fin de la trêve hivernale, c'est demain soir en France. Cette période de 5 mois pendant laquelle les locataires ne peuvent être expulsés s'arrête. Alerte des associations de droit au logement. 140 000 personnes seraient menacées d'expulsion et dans cette liste, de nombreuses personnes âgées sont concernées, prévient Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole de l'association droit au logement.
Dans un contexte dramatique, terrible, terrifiant pour tous ceux qui sont toujours plus nombreux, menacés d'expulsion, qui ont reçu le concours de la force publique. On voit aussi de plus en plus de personnes âgées qui sont mises dehors par des bailleurs rapaces là qui veulent pouvoir récupérer leurs biens pour le louer encore plus cher. Parce que les locataires anciens payent des loyers moins chers, évidemment, que ceux qui arrivent sur le marché, comme les jeunes. Et donc, on a une cruauté sociale qui s'installe et les expulsions sont l'expression la plus flagrante. Donc, si vous voulez, là, il y a une aggravation de la situation qui est la conséquence, évidemment, de la cherté des loyers, de la baisse des revenus des ménages populaires, une paupérisation des locataires et également d'une baisse des APL. Enfin, bon, tout ça conjugué fait qu'on est dans une situation dramatique. Et d'autre part, il faut savoir que le taudis, le marchand de sommeil, l'exploitation d'autrui profitent de cette situation. Et donc, on va avoir de plus en plus de locataires qui vont être entre les serres des vautours du logement. Et là, pour nous, le gouvernement devrait lancer un grand plan Marshall de production de logements sociaux au lieu de financer, de subventionner, d'aider, de venir au secours des milieux immobiliers qui gagnent de l'argent sur le besoin essentiel.
Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au logement. Le temps pour demain, il va faire beau toute la journée lundi, très ensoleillé partout en France, des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, comptées entre 10 et 13 degrés dans l'après-midi jusqu'à 19 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Benetto.